Chapitre 5, verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit : Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. L'Éternel dit à Moïse : Tu vas voir maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit : Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites. Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. L'Éternel dit à Moïse : Va parler au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel : Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile ? Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et il leur donna des ordres au sujet des Israélites et au sujet du Pharaon, du roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte.
Voilà, je vous invite à la prière d'abord, prions. Merci Père pour ta parole. Merci de nous avoir donné cette parole qui éclaire notre chemin, qui est une lampe à nos pieds. Nous voulons te demander ce matin de nous parler par ton esprit, au moyen de cette parole, de nous changer, de nous aider à te faire confiance, à mieux ressembler à ton Fils, Jésus-Christ. Au nom de ce Fils, Jésus-Christ. Amen. Voilà, le 18 juin 1940, le général de Gaulle a fait son célèbre appel sur les ondes de la radio de Londres. C'était un appel passionné, plein de foi, il a dit. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non, quoi qu'il arrive. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Alors face à la défaite, le général de Gaulle n'était pas lui-même défait. Pour lui, la France avait perdu une bataille, mais elle n'avait pas perdu la guerre. À vue humaine, la situation était désespérante. La confusion régnait, le doute s'installait. Mais de Gaulle avait une certaine foi en l'avenir. On le sent dans ce texte, et l'histoire a montré qu'il avait raison. Ceci, les biographies de sa vie montrent qu'il a passé par bien des moments de doute, des moments sombres et des querelles aussi. Alors ce matin, nous retrouvons le récit de l'Exode et Moïse. Moïse a un moment de sa vie et de son ministère où il y a du doute, il boit du noir. En fait, tout le monde boit du noir. Dans le texte, nous avons abordé la semaine dernière l'annonce de la parole au Pharaon n'a qu'empiré la situation. Le roi d'Égypte avait traité les Israélites de paresseux. Et pour faire les briques, il les avait contraints de chercher la paille en plus. Donc, au revoir au peu d'acquis sociaux dont le peuple jouissait. Et Moïse dit au Seigneur, au verset 22 du chapitre 5, « Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Moïse ne comprend pas. Que fait Dieu au juste? À quoi il joue? Dieu dit qu'il aime ce peuple, mais ses conditions quotidiennes sont effroyables. Alors à la fin du passage, notre passage ce matin, l'état d'esprit de Moïse et du peuple est guère mieux. Jetez un coup d'œil au verset 9 du chapitre 6. Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. Ce n'est pas facile d'écouter les mots d'espérance quand tout va mal. Ils semblent irréalistes, utopistes, imaginaires. Et c'est pour ça que les Israélites ont du mal à croire les paroles que Dieu a données à Moïse, à leur annoncer. L'attitude de Moïse ne semble pas très dissemblable. Au verset 12, Dieu lui demande d'aller reparler avec le Pharaon et Moïse revient aux mêmes excuses qu'il a déployées au chapitre 4. Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. Qui a dit que la foi est facile? Moïse doute, il est découragé, le peuple doute, il est là. Il arrive que le chrétien doute, qu'il se décourage aussi. Peut-être que vous êtes découragé, démoralisé en ce moment. Je suis toujours étonné par un texte qui se trouve à la fin de l'évangile de Matthieu, où les disciples sont autour du Christ ressuscité, juste avant qu'il ne s'en aille. Et Matthieu nous dit, il relate, il raconte ce qui s'est passé. Je cite, « Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns, ou c'est peut-être les deux, on ne sait pas dans la traduction, mais quelques-uns eurent des doutes. La foi et l'adoration se trouvent mêlées à la peur, au doute. » C'est vrai que ces choses s'enchevêtrent parfois dans notre expérience. Nous pouvons nous identifier tantôt avec Moïse, tantôt avec le peuple, tantôt avec ses disciples, marqués à la fois par la foi et le doute, l'adoration et la peur. Nous sommes des êtres compliqués, fragiles, avec des arrière-plans différents, des blessures variées, et submergés non pas par des forces mécaniques terrestres, aérienne, mais par les forces spirituelles, morales, de l'ennemi, du découragement, de l'opposition, du mépris. C'est vrai, il faut être un personnage exceptionnel, voire anormal, pour demeurer intouchable, imperméable à ce genre d'épreuves. La Bible ne dit pas que la foi est facile. Et ce passage est superbement réaliste et terre-à-terre à cet égard. Alors, mais que dit Dieu au juste quand la foi n'est pas facile, quand les circonstances semblent insurmontables, quand les souffrances, les difficultés, l'opposition semblent nous entourer et nous accabler? Que dit-il quand la foi n'est pas facile? Alors, je pense que ce passage va nous éclairer un petit peu et je suis convaincu qu'il nous donne quelques pistes, les pistes qu'il nous faut pour nous aider dans ces moments sombres et difficiles de découragement, de doute. C'est un passage qui nous aide, qui nous dit ce qu'il faut faire pour écouter ce que Dieu dit, pour reprendre espoir et à lui faire confiance de nouveau. Alors, à premier abord, ce but peut sembler un peu optimiste, un peu illusoire même. Après tout, nous venons de constater que la réaction du peuple aux paroles de Dieu était quand même pas vraiment très exemplaires. Leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchaient de l'écouter. La parole semblait rencontrer un échec retentissant. Qu'est-ce qui va nous empêcher de réagir de la même manière? Alors, lorsqu'on lit la Bible, il faut se passer d'abord du côté du premier lecteur du passage pour comprendre ce que l'auteur voulait dire à ses premiers lecteurs. Alors, Moïse a choisi d'inclure ce passage dans un récit parce que ce passage a quelque chose, avait quelque chose à dire à ses lecteurs, ses premiers lecteurs et aussi à nous. Or, les premiers lecteurs de ce passage n'étaient pas les Israélites en Égypte, souffrant sous la main lourde du Pharaon. Mais ils étaient des Israélites dans le désert du Sinaï. Ils avaient déjà vécu l'Exode. Ils avaient déjà expérimenté la libération de Dieu. Ils ne vivaient plus sous le joug terrible de l'esclavage, de ce dictateur génocidaire. Ils avaient déjà la loi entre leurs mains. Ils avaient au centre du camp, du campement, le tabernacle. Ils pouvaient écouter cette histoire avec du recul. Ils pouvaient regarder en arrière et faire le bilan de ce que Dieu a dit, ce qu'il avait dit, et ce que Dieu avait déjà accompli. Et fort de ce bilan positif, le peuple dans le désert allait pouvoir affronter l'avenir avec courage, espérance et foi. Et j'espère que ce passage nous permettra de faire de même ce matin. Alors la première chose que je veux qu'on retienne de ce passage, c'est que Moïse demande à Moïse, Dieu demande à Moïse et au peuple de fixer leurs yeux sur lui. Alors, je vais projeter sur le PowerPoint notre texte ce matin pour montrer un peu la structure du passage. Donc si vous ne pouvez pas voir le PowerPoint, ce n'est pas grave, l'explication suffira. Alors, ce texte est centré de manière magistrale sur Dieu lui-même. On le voit au verset 2, donc au début. « Je suis l'Éternel ». Ensuite, Dieu dit « J'ai dit ceci et cela ». Ensuite, au verset 6, encore une fois, « Je suis l'Éternel ». Et puis, « Je ferai encore ». Et Dieu termine en disant, au verset 8, « Moi, l'Éternel ». Dieu n'est pas un homme pour qu'il doive s'effacer. Dieu n'est pas orgueilleux en centrant tout sur lui. Dieu est l'être le plus grand, le plus glorieux qui soit. Et ce qui est grand, ce qui est glorieux, ce qui est pur, ce qui est majestueux, ce qui est bon, ce qui est beau, tout ça doit être reconnu comme tel. Sinon, l'ordre des choses serait inversé. Dieu doit centrer tout sur lui, à sa gloire. Moïse boit du noir. Il ne voit plus clair. Il sombre dans le découragement et le doute. Et Dieu lui demande de fixer son regard sur Dieu. Je suis l'Éternel. Moi, l'Éternel. Dieu lui demande d'arrêter le nombrilisme, le pessimisme, le manque de foi et de regarder en haut. De fixer son regard sur lui, sur le Dieu qui est là. Alors, moi, j'aime bien le printemps. Je l'aime bien quand il fait froid, encore froid, mais quand il y a du soleil. Les gens qui commencent à pousser, à se montrer. Après l'hiver et les journées courtes, la lumière du soleil nous fait du bien. Elle change notre regard et souvent imperceptiblement, notre humeur change. Notre perspective change. L'été s'approche. Alors le soleil n'est pas, comme les Égyptiens eux-mêmes le croyaient, Dieu lui-même. Le soleil fait partie de la création de Dieu. C'est l'Éternel qui a créé le soleil. Il fait partie de la création, tout comme la terre, qui n'est pas notre mère d'ailleurs. Mais Dieu se compare à la lumière. Jésus lui-même a dit qu'il est la lumière. Et cette lumière est claire. Elle change profondément notre perspective. Et dans ces moments de découragement, Dieu nous invite à changer de perspective, à fixer nos yeux sur lui, l'Éternel, la lumière du monde. Dans le Nouveau Testament, Jésus étonne ses interlocuteurs en laissant entendre qu'il est lui-même l'Éternel, le Seigneur. Il a dit par exemple, « Avant qu'Abraham ne soit né, je suis ». Quand l'apôtre Philippe a demandé à Jésus de leur montrer le Père, Jésus lui a répondu « Celui qui m'a vu a vu le Père ». L'apôtre Paul a dit dans sa lettre à l'église de Colosse « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Alors si on veut voir Dieu, si on veut fixer nos yeux sur l'Éternel, nous devons fixer nos yeux sur Jésus, celui qui s'est donné à voir, qui s'est fait homme, qui a marché parmi nous, celui qui est allé à la rencontre des femmes et des hommes profondément découragés par la dureté de la vie. Alors comment pouvons-nous fixer nos yeux sur lui ? Jésus s'est donné à voir, certes, mais il n'est plus là. En plus, il est venu avant l'époque de la télé, des DVD. On ne peut plus le voir, encore moins fixer nos yeux sur lui. Alors certains se bricolent des icônes, des images, pour mettre dans la voiture ou sur le mur. La Bible ne recommande pas cela. En fait, la Bible nous met en garde contre cette façon de voir Dieu, de voir Jésus. Donc comment est-ce qu'on peut voir l'Éternel ? Alors c'est les versets 3 à 5 qui nous donnent la clé. Deuxième partie, revenez à mes paroles et tu me verras, tu verras que je suis fidèle. Dans ces versets, Dieu retrace l'histoire de ses promesses. Il parle des patriarches, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il parle des promesses qu'il a faites à ses hommes de génération en génération. Il raconte comment il a conclu une alliance avec eux, comment il leur a promis de bénir au lieu de maudire, comment il leur a promis de leur donner un pays, le pays de Canaan. Comme j'ai dit tout à l'heure, Moïse a écrit ce livre de l'Exode pour ceux qui étaient déjà sortis de l'Égypte. Ils avaient déjà vu la main de l'Éternel à l'œuvre. Ils pouvaient regarder en arrière et voir qu'en effet, Dieu avait été fidèle aux promesses qu'il avait faites à Abraham. Ces promesses n'avaient pas été des paroles en l'air, des paroles, des promesses qui n'engagent que ceux qui les reçoivent, comme certains hommes politiques cyniques prétendent. Les paroles de Dieu s'étaient montrées authentiques, fiables. Les mots sur lesquels les Israélites pouvaient en toute confiance bâtir leur vie, sans se faire arnaquer. Dieu nous demande de fixer nos yeux sur lui, de bâtir nos vies sur lui, en bâtissant nos vies sur ses paroles, sur ses promesses. Si on bâtit nos vies sur nos sentiments, sur nos expériences religieuses, spirituelles, mystiques, ou sur notre propre intellect, on avance sur du sable instable, sur du sable mouvant. Jésus nous en a donné une illustration tirée de la vie de tous les jours. Jésus a dit que la personne qui met en pratique ses paroles, qui bâtit sa vie sur ses paroles, voilà, est comme un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Des dizaines d'années plus tard, le peuple déjà libéré, qui a déjà reçu la loi au mont Sinaï, devait contempler la suite, l'entrée dans la terre promise. Et le peuple redoutait ce moment. Il avait peur. Il avait peur des peuples qui occupaient ces terres et qui n'allaient pas les accueillir à bras ouverts. Les Israélites avaient besoin de se souvenir du fait que les paroles de l'Éternel s'étaient avérées justes et fiables, parce que l'Éternel lui-même est fidèle. En revenant à sa parole, en rencontrant l'Éternel dans les différentes histoires et épisodes de la vie des patriarches, du peuple d'Israël, en Jésus, en l'Église, notre perspective à nous change. Nous voyons le Dieu qui est la lumière, qui est la vérité, le chemin et la vie. Et notre esprit s'élève et notre espérance dépasse les circonstances. Dieu aurait pu choisir de se révéler par des expériences mystiques ou par la nature. Mais il a choisi, comme moyen normal, normatif, de s'offrir à nous, de nous rencontrer dans sa parole. Le psalmiste dit, avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute-moi conformément à ta bonté. Rends-moi la vie conformément à ta sentence. Ils s'approchent ceux qui me poursuivent, qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Mais toi, tu es près de moi, Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dans les moments de découragement, de doute, de désarroi, d'opposition, Dieu nous appelle à fixer notre regard sur lui. Il nous appelle à le faire en nous souvenant, en nous rappelant ses promesses, en le rencontrant, lui, le Dieu vivant et vrai, dans sa parole. Alors nous avons tous des passages préférés de la Bible, des lieux d'abreuvoir auxquels nous revenons constamment, sans cesse, en quête d'encouragement. Pour l'un, ça sera les psaumes, et peut-être un psaume en particulier. Pour un autre, ça sera une lettre, un chapitre, ou un moment dans la vie de Jésus. Et c'est vrai, nous avons besoin de ces points de repère où on peut revenir sans cesse, rechercher la paix et rechercher le Seigneur. Mais cette parole nous conduit inéluctablement à un endroit en particulier, jusqu'au pied de la croix de Jésus-Christ. Dans les moments de découragement, de doute, Dieu nous appelle à revenir au pied de la croix. Car c'est là que Dieu nous a libérés. Voilà, c'est notre troisième et dernier point ce matin. Dieu nous dit, revenez au pied de la croix, car c'est là que je vous ai libérés. Verset 6. Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Alors dans cette section, Dieu parle au temps futur pour là expliquer ce qu'il va faire à l'avenir. Il dit de trois manières une chose. Il s'agit de libération, de délivrance et de rédemption. Ce sont trois synonymes qui parlent du même événement. Alors le mot « racheter », « rédemption » est un mot biblique très important. L'idée qu'elle véhicule, comme on le voit bien ici, est celle de la libération. Une personne rachetée est fondamentalement une personne qui a été délivrée, libérée. Libérée bien sûr de quelque chose, et on voit dans ce texte un peuple en proie à l'esclavage. Un pharaon raciste, esclavagiste, génocidaire. Alors dans la pensée biblique, l'idée de rédemption est très liée à l'idée de rançon. La rançon est le prix qu'il faut payer pour libérer un otage, pour racheter un esclave. Et nous allons le voir dans quelques semaines, dans deux semaines, comment Dieu va faire, comment il va effectuer cette libération, cette rédemption. Et elle va nécessiter un sacrifice, la mort d'un agneau. Et nous allons voir comment chaque famille doit mettre du sang sur les linteaux pour que les fils aînés de chaque famille puissent échapper à la mort. Nous verrons que même si ce sont les Israélites qui sont opprimés et qui ont besoin d'être délivrés de cette oppression, la mort les guette tous. C'est un fait qui peut nous étonner. Les opprimés et les oppresseurs risquaient bien d'encourir la même peine, le même sort. Et c'est que le sang de l'agneau qui les sépare et qui sauve les Israélites. Sur les planches du théâtre de l'Égypte, Dieu nous montre ainsi la portée de la vraie libération dont nous avons tous besoin. Cette mort éternelle, ce jugement qui nous guette tous. La Bible dit à maintes reprises et de façon très diverse et variée que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, israélites, égyptiens, riches, pauvres, religieux, irréligieux. Tous ont rejeté Dieu. Tous ont rejeté Dieu comme créateur, comme chef de leur vie. Alors Michael nous a expliqué la semaine dernière que trop souvent, nous ressemblons au pharaon qui ne reconnaît pas l'autorité de son créateur, qui s'érige en juge de sa parole. Nous voulons vivre à notre manière. Nous voulons nous émanciper de son règne. Mais ce coup d'État ne nous a pas libérés. Loin s'en faut. nous a plutôt réduits à l'état d'esclaves, assoiffés de mal, affamés de remplir le vide, le manque de sens, le manque de repères moraux que notre révolte a créé en nous. Nous remplaçons Dieu avec tout un tas de trucs qui, enfin, nous asservissent et qui nous réduisent à des adorateurs de mensonges. Et ainsi, nous nous retrouvons loin du règne bienfaisant de notre Créateur, qui sait ce qui est bon pour nous, et dont l'amitié est salvatrice, libératrice, bienfaisante, guérissante. Ce coup d'état spirituel ne peut pas continuer comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que Dieu dit que le salaire de cette révolte, ce mépris, est la mort. Nous le verrons en la personne de Pharaon dans quelques semaines. Il sera bientôt être mis devant sa folie, l'absurdité de son choix. Et il le verra lorsqu'il perdra son fils et lorsque son armée sera écrasée par Dieu. Il va enfin réaliser que la rébellion était futile, absurde et moralement traître. Et qu'il aurait mieux fait faire. Il aurait mieux fait d'écouter et d'obéir son Créateur. Jésus a dit dans Marc chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et c'est son sacrifice à la croix qui nous libère de la sentence de la mort. L'Épître aux Galates nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » C'est la loi avec ses exigences morales, divines, qui nous condamnait. Mais grâce à l'œuvre de Jésus, la loi ne peut plus nous condamner. Ce qu'elle exigeait, notre mort, cette condition est déjà satisfaite, remplie. Car Jésus est mort pour nous, il a pris notre condamnation à notre place. Paul a dit aux chrétiens grecs de Colosse, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes, et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé, en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Dieu est le Dieu de l'ironie, c'est ainsi qu'il montre sa souveraineté. À la croix, dans un moment de faiblesse, de sacrifice, c'est là que Dieu a vaincu nos ennemis. À la croix, au moment où l'humanité lui montrait de manière suprême sa haine, Dieu nous montrait l'ampleur de son amour pour nous. C'est là que le Fils a été éloigné du Père pour que nous puissions être réconciliés au Père. C'est là que l'homme a condamné Dieu, mais c'est là que Dieu s'est donné pour que nous puissions échapper à la condamnation. Lorsque Moïse est allé voir le peuple avec cette promesse de libération, de rachat, de rédemption, le peuple n'avait pas pu recevoir ces paroles parce qu'il était démoralisé à cause de son dur esclavage. Mais pour les premiers lecteurs de ce passage, bien des années après, la rédemption était déjà un fait incontestable, un fait objectif. Ils savaient que Dieu était leur Dieu, qu'il lui appartenait parce que Dieu l'avait vraiment fait. Le verset 7 nous dit « Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et ainsi vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Ce que Dieu a dit, c'est qu'il a dit, le peuple saurait que Dieu était leur Dieu une fois qu'il les avait libérés. Après coup, c'était après coup qu'ils allaient s'en rendre compte, après la libération. C'est à ce moment-là qu'ils allaient savoir plus pleinement, avec plus d'assurance, que Dieu était vraiment à leur côté, qu'il les aimait. Et pour le lecteur chrétien, c'est la même chose, mais en mieux, en plus grand, en plus majestueux. Face au doute, face au désespoir, à la démoralisation, face à nos fragilités, peut-être même la condamnation de nos consciences. Le chrétien peut se rappeler de ce fait incontestable, de ce fait objectif, à la croix, Dieu nous a rachetés. C'est là qu'il nous a libérés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes à lui, aujourd'hui et à tout jamais. Dieu nous donne une feuille de route, et cette route est celle de l'Évangile. Ce que nous avons entre nos mains dans ce texte, un résumé de l'Évangile. Dieu a dit, voilà, je l'ai promis, il y a des siècles, il y a bien des années, et je l'ai accompli, en vous rachetant, en vous libérant de la mort, du mal et du malin. Je l'ai fait par mon Fils, par la mort sacrificielle de mon Fils. Ça veut dire que grâce à ce fait incontestable, ce fait objectif dans l'histoire, notre relation avec lui est sûre et notre avenir est certain. Alors cela ne veut pas dire que la foi est toujours facile. Elle ne l'est pas. Mais quand elle n'est pas facile, Dieu nous demande de revenir à lui, à sa parole, et à revenir surtout là où sa parole nous conduit, au pied de la croix, et de nous rappeler la grandeur de l'Évangile, la majesté de son amour. Dans les moments les plus sombres et les plus difficiles, quoi faire, que faire ? Dieu nous invite tout un chacun à prêcher l'Évangile à nos propres cœurs. Et si vous avez l'occasion, à le faire aussi, à prêcher l'Évangile au cœur de vos frères et sœurs. Je vous invite à la prière. Prions.